Eh ben bonsoir, pardon pour ces petits problèmes techniques. On continue notre réflexion sur l'espérance et on va cette fois-ci commencer à entrer dans des textes qui vont nourrir notre espérance puisque ce sont les apparitions du Christ ressuscité, notamment dans l'évangile de Jean. Et on va voir ce soir quelque chose de très important et pour l'introduire, je commence par une lettre que j'aime bien. C'est une lettre de Suzy qui écrit à sa maman. Peut-être vous avez déjà entendu cette lettre, je la lis parfois. « Chère maman, désolé de ne pas avoir écrit plus tôt, je me suis cassé le bras. Je l'ai cassé et ma jambe gauche aussi, en sautant du deuxième étage de mon dortoir, quand nous avons eu le feu. Nous avons eu de la chance, un jeune homme a vu l'incendie et a appelé les pompiers. Il était là en quelques minutes. » J'ai passé quelques jours à l'hôpital. Paul, le jeune homme, est venu me voir tous les jours. Et parce qu'il fallait tellement de temps pour que notre dortoir soit à nouveau habitable, j'ai emménagé avec lui. Il a été si gentil. Bon, je dois avouer que je suis enceinte. Paul et moi avons l'intention de nous marier dès qu'il pourra divorcer. J'espère que tout va bien à la maison. Je vais bien, je t'en dirai plus quand j'aurai l'occasion. Bisous, ta fille Suzy. Alors, il y a un post-scriptum. Maman, rien de tout cela n'est vrai, mais j'ai obtenu une mauvaise note en sociologie et je voulais juste que tu reçoives cette nouvelle dans sa juste perspective. Donc voilà, le thème ce soir, c'est de changer de perspective. Ça aide l'espérance lorsque... on peut voir les choses autrement et on peut au moins essayer. Pour garder l'espérance, il faut au moins avoir la juste perspective. Et la juste perspective, c'est celle de Dieu, en fait. Comment Dieu voit-il les choses? Il y a un ouvrage intéressant de John Gordon qui a écrit un bouquin qui s'appelle « The Positive Dog ». Il imagine qu'on a en nous deux chiens, Apollo et Rocky. Alors, Apollo, c'est un chien toujours pessimiste, un peu agressif. Rocky, lui, il est toujours joyeux et optimiste. Et alors, la question qu'il pose, c'est si Apollo et si Rocky se battent en notre âme, qui va gagner? Réponse, celui que vous nourrissez le plus. Et donc, la question, vous voyez bien, c'est de savoir est-ce que je vais nourrir davantage mon pessimisme ou nourrir davantage mon optimisme. Et voir les choses dans la perspective de Dieu, c'est les voir normalement du côté de la résurrection, donc du côté de la victoire. Un chrétien, a priori, est optimiste. Il a plus que de l'optimisme, il n'est pas passif dans son désir, mais il est tendu vers la victoire parce qu'il sait déjà que la victoire est acquise puisque Christ est ressuscité. Et alors, la vie, en fait, est souvent déterminée par la manière dont on regarde les choses. Et donc, c'est pour ça que ce soir, on va essayer d'entrer dans ce regard de l'espérance. J'ai appris une fois qu'en moto, on conduit avec les yeux, parce qu'il y a beaucoup de motards parmi vous, mais la moto va à peu près là où on regarde. C'est déjà vrai en voiture, mais c'est tellement vrai que lors d'un Paris-Dakar, ils étaient en plein désert, il y a un arbre, il se l'est pris. Donc, c'est pas l'eau. Donc, il était focalisé sur ce seul arbre du désert. Il a réussi à se le prendre. Changer de perspective, c'est voir la présence de Dieu malgré son apparente absence. Et ça, c'est ce qu'on va voir avec le premier récit du Christ qui manifeste sa résurrection. C'est le fameux récit en Jean 20, le récit du tombeau vide. Alors, je vous lis ce passage, c'est Jean 20, versets 1 à 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sortit donc ainsi que l'autre disciple et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussitôt Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Alors on va reprendre en détail ce magnifique texte de la résurrection. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau. Comme il faisait encore sombre, elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Donc on est entre 3h et 6h du matin. Et vous voyez que le thème ici, c'est l'obscurité. L'obscurité donc de la foi. Elle n'est pas seulement dans l'obscurité du jour qui va poindre, mais elle est au fond dans les ténèbres. C'est ça qui est manifesté ici symboliquement. Et elle constate un fait, la pierre est roulée. Mais c'est encore obscur. On ne sait pas la cause. On demeure dans l'obscurité et apparemment les ténèbres l'emportent sur la lumière. Donc là, c'est plutôt une situation de désespoir. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors elle court. C'est un mot qui va revenir beaucoup. Après, on va voir Pierre et Jean qui courent. Le verbe « venir »,« aller »,« venir », »,« erkomai » en grec, revient 11 fois en 10 versets, ce qui manifeste l'agitation. Ils sont tous dans l'agitation. Vous voyez, quand vous avez obscurité et agitation, on appelle ça l'anxiété, hein. On appelle ça l'angoisse. Je suis dans les ténèbres, je vois plus rien, plus le sens, mais je suis agité avec ce non-sens. C'est vraiment une description symbolique de l'angoisse ici, qui est une forme de désespoir. Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança la course et arriva le premier au tombeau. Ah, je me suis toujours demandé pourquoi Jean dit ça. Est-ce qu'il est fier parce qu'il courait plus vite que Pierre? Oui, ça semble un peu ridicule quand même. J'ai gagné, oui. Il est plus jeune en plus. Donc pourquoi il court plus vite? Pourquoi il nous le dit? Hypothèse, j'ai trouvé un jour un article sur les Jeux Olympiques qui disait que la culpabilité rend les athlètes moins performants. Donc je me suis dit, voilà, Pierre, il court moins vite parce qu'il se sent coupable. Ben, il a renié Jésus 3 fois, Jean, il était au pied de la croix. Donc je pense qu'il y a symboliquement ici aussi une autre forme d'angoisse, de désespoir, qui est la culpabilité. Imaginez le désespoir de Pierre, hein. Marie-Madeleine est désespérée, mais Pierre, il l'est doublement. Il l'est à cause de la mort de Jésus et à cause du fait qu'il l'a renié. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre, pourtant il n'entre pas. Alors là, c'est joli, c'est touchant de la part de Jean. Il court plus vite, il arrive le premier, il devait être très curieux, avoir envie d'entrer. Il s'arrête, Pierre passe devant. Quelle délicatesse fraternelle ici, hein. Alors qu'il était en pleine course, etc., Pierre passe devant parce qu'il perçoit le drame de Pierre et l'anxiété de Pierre. Et puis Pierre reste Pierre, il est le chef des apôtres. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est les différents regards. On a eu Marie-Madeleine, elle a vu les choses. Maintenant, on voit Pierre, il arrive, Simon-Pierre qui le suivait, il entre dans le tombeau, il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part. Donc Pierre, lui, il entre. Marie-Madeleine, on ne nous dit pas qu'elle est entrée. Pierre, il entre dans le tombeau, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit les linges roulés à part, en ordre. Ça remet un peu en cause la thèse de Marie-Madeleine, qui pense que des voleurs sont venus saccager la tombe et prendre le corps de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un cambriolage. C'est très pénible, mais une des choses évidentes dans un cambriolage, c'est que les cambrioleurs, ils ne rangent pas les choses après. Donc, quand des cambrioleurs sont chez vous, tout est en désordre. Or là, on nous dit, tout a l'air d'être en ordre, les linges rangés à part, etc. Alors, il observe ça, mais il n'en conclut rien. Il observe, ensuite il rentre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot n'est pas le même. Ici, on a déjà des verbes. En français, on va dire « il vit ». En grec, on va avoir trois verbes. Et un est pour Marie-Madeleine, un est pour Pierre, un est pour Jean. Marie-Madeleine, c'est « blépo ». « Blépo » en grec, ça veut dire « je vois avec mes yeux », comme ça, c'est le voir, on se regarde actuellement, c'est « blépo ». Alors que là, pour Pierre, c'est « théoréo ». Vous entendez « théorie », hein, « théoréo ». C'est observer avec attention, examiner. Donc Pierre, il examine, il est perplexe. Il examine, il regarde tout, mais il ne conclut pas. Et alors, l'autre disciple arrive, le premier au tombeau, il vit et il crut. Ça, c'est le sommet du texte, bien sûr. C'est le moment décisif. Jean entre, il voit et il croit. On ne nous dit pas ce qu'il a vu, d'ailleurs. Il a vu probablement la même chose que Marie-Madeleine, l'absence de Jésus. Il a vu la même chose que Pierre, les linges. Sauf que lui, il se passe quelque chose. Et là, le verbe est différent. En grec, c'est le verbe « orao » qui désigne une sorte de voir intérieur. Je vois avec le cœur. Donc là, on sent un moment d'intériorisation. C'est Jean, tout d'un coup, a une sorte d'illumination intérieure. Il vit et il crut. Donc, il opère un changement de perspective. Ouais, c'était ce que je disais au début. La résurrection nous oblige à un changement de perspective. Apparemment, le tombeau est vide. En vérité, Christ est vivant. C'est ce qu'il dira un jour dans son prologue. Peut-être il pense à ça quand il dit « La lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la vaincre. » Lui aussi, il est dans les ténèbres comme Marie-Madeleine et Pierre. Sauf que pour lui, la lumière a lui dans les ténèbres. Et il ajoute d'ailleurs, pour manifester qu'il est resté quand même dans l'ignorance, « En effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. » Donc, il insiste à nouveau sur la non-connaissance. Et on est au point du jour, la lumière n'est pas encore totale. Jean croit, mais en quoi est-ce qu'il croit ? Il croit que Jésus est vivant, mais il ne sait toujours pas où il est. Alors, ici, il change de perspective et il retrouve la confiance et il retrouve l'espérance. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait insisté sur la structure de l'espérance. Quand vous espérez, vous désirez, premier élément de l'espérance, vous désirez et vous pensez que c'est possible, donc vous avez confiance. Et c'est possible malgré la difficulté. L'espérance implique toujours une certaine difficulté et donc il faut aussi de la combativité. Les trois éléments constitutifs de l'acte d'espérer: désirer, avoir confiance, se battre. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Donc vous avez donc trois verbes différents. Marie-Madeleine, elle reste au voir extérieur, blépo. Pierre, il entre, il observe. Il scrute, théoréo. Jean, il vit et il crut, orao. La conversion du regard. Espérer, c'est déjà comme ça. C'est le premier moment de l'espérance. Comment je regarde les choses ? Est-ce qu'on pourrait regarder les choses autrement que de façon désespérante ? Donc c'est le regard de foi, hein, qui va être la clé de l'espérance. Alors dans d'autres textes, on voit que Marie, et puis on va le voir plus tard, dans l'épisode qu'on verra la prochaine fois, Marie en fait est persuadée qu'on a dérobé le corps de Jésus. Hein, et ce qui est très étonnant, c'est qu'elle se fait une histoire cohérente. Le corps n'est plus là, et donc elle a déjà son récit, son scénario parfaitement cohérent. Nous lecteurs, ça nous amuse parce qu'on sait qu'elle est cohérente, mais pas vraie. Distinguer toujours la cohérence imaginative et logique et la vérité. Son discours est cohérent, ça pourrait être ça, c'est une théorie explicative du fait que le tombeau est vide, mais elle est totalement dans l'imaginaire, et nous lecteurs on le sait puisqu'on sait qu'il est ressuscité. Vous voyez, quand parfois on est comme ça, on est tellement désespéré qu'on se fait des films, en fait. Cette personne ne m'aime pas, et puis d'ailleurs, t'as vu, puis on a tous les éléments, et après on va mettre tout ça ensemble et on va en faire une certitude. Et ça, en fait, c'est notre espèce de panique imaginative. C'est pour ça que Jésus, on le verra la prochaine fois, les Marie, il la ramène au contact personnel, il la ramène au bon vieux réel de la relation personnelle. En tout cas, ça, faut faire attention à la folie du désespoir qui peut prendre une apparence logique. tous vous disent « Non, j'ai de bonnes raisons d'être pessimiste, j'ai de bonnes raisons d'être désespéré. » Parfois, c'est vrai, hein, mais parfois, en fait, ces bonnes raisons n'en sont pas. C'est le cas de Marie-Madeleine, ici. Pierre, lui, ben, il suspend son jugement, il est dans le doute, il bascule pas encore dans la foi. Donc, d'une certaine façon, il reste à l'extérieur du mystère. Il est entré dans le tombeau, mais il reste à l'extérieur quand même. Le seul qui entre dans l'intériorité, c'est Jean. Il entre dans l'intérieur même du mystère de la résurrection, par une conversion du regard. Alors, je voudrais développer un tout petit peu ce point. Entrer dans le mystère de la résurrection suppose d'apprendre à voir les choses comme Dieu les voit. Pour ça, vous avez un très beau passage dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6, versets 8 à 17, mais je vais prendre juste, je vais vous résumer le début. C'est que vous avez Élisée qui est le prophète, et le roi d'Aram veut faire la guerre à Israël. Le problème, c'est qu'à chaque fois que le roi d'Aram tend une embuscade à Israël, Élisée prévient le roi d'Israël. Il dit « Attention, embuscade ». Parce qu'il est prophète, il voit les choses, lui, c'est pratique. Il devrait être embauché par l'armée, là, c'est lui, super comme guerrier. Et donc, il avertit toujours, et le roi d'Aram, il dit « Mais il ne comprend pas ». Et puis on lui dit « Mais ça doit être Élisée, le prophète, qui dit au roi d'Israël à chaque fois que tu tends une embuscade ». Alors, du coup, c'est simple, on va essayer de capturer Élisée. Alors, de nuit, ils arrivent, et des chevaux, des chars et une forte troupe arrivèrent de nuit et cernèrent la ville. Le lendemain, Élisée se leva de bon matin et sortit. Et voilà qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Son serviteur lui dit « Ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire ?» Mais il répondit « N'aie pas peur, car il y a plus avec nous qu'avec eux. » Je voudrais voir la tête du serviteur. Il recompte. On est deux. Donc il dit « N'aie pas peur, il y a plus avec nous qu'avec eux. » Et Élisée fit cette prière « Seigneur, daigne ouvrir ses yeux pour qu'il voie. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Voilà que la montagne était couverte de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc il est entouré d'anges. Toute l'armée du roi d'Aram est elle-même entourée, encerclée par les anges de Dieu qui vont protéger Élisée. Donc, « Ouvre mes yeux, Seigneur. » Ça, c'est une très belle prière à faire que les aveugles faisaient souvent, hein. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que je voie. » À une prière qu'on peut faire, parce que c'est ce regard qui va commander la confiance qui est le cœur de l'espérance. Il faut que je voie que c'est possible. Il faut que je voie qu'il y a une issue. Il faut que je voie que la vie a encore la possibilité d'émerger. Il faut que je voie que le printemps va triompher de l'hiver. Seigneur, que je voie. Oui, c'était ce que je disais la dernière fois. Ne dis pas à Dieu que tu as un grand problème, dis à ton problème que Dieu est grand. Alors la foi, en fait, nous donne des yeux. On dit ça de Moïse, j'aime beaucoup, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, on dit « Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la fureur du Pharaon, comme s'il voyait l'invisible, il tenait ferme. » Très fort cette phrase. Comme s'il voyait l'invisible, il tenait ferme. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était une très belle expérience pour moi. Je suis parti, il y avait du brouillard, des nuages, et puis l'avion a traversé les nuages, et puis je n'avais jamais eu cette expérience. De l'autre côté, il fait beau. Ben, c'est tout bête, mais il y a quelque chose comme ça dans la conversion de regard, c'est de savoir qu'en vérité, il fait beau, sauf que je ne le vois pas. Alors ça ne marche pas tous les jours, hein. Jour un peu déprimant quand même. Mais vous voyez, si je pouvais à chaque fois être du côté de la victoire, eh bien il y a quelque chose dans cette transformation du regard qui me fait adopter le regard de Jésus en fait. Parce que c'est comme ça que Jésus est. Levez les yeux, la moisson est déjà blanche. Les blés sont déjà blancs pour la moisson. Levez les yeux. Et le pape François, dans sa toute première encyclique, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui en fait a été écrit à 90% par son prédécesseur, Benoît XVI, Lumen Fidei, il insiste beaucoup, il a des très belles expressions pour dire que justement, là, par la foi, nous recevons les yeux de Jésus, d'une certaine façon. Je vous lis par exemple au numéro 4, La foi née de la rencontre avec le Dieu vivant, transformée par cet amour, nous recevons des yeux nouveaux. Donc une nouvelle manière de voir les choses. Numéro 18, la foi est une participation à la façon de voir de Dieu. Numéro 21, c'est dans cet amour que se reçoit en quelque sorte la vision propre de Jésus. Et numéro 26, la foi nous transforme intérieurement et nous donne des yeux nouveaux pour voir la réalité. Alors c'est ça qu'il faut demander. Premier acte d'espérance, si je veux vraiment cultiver en moi l'espérance, il faut que j'apprenne à changer ma perspective sur les choses, à essayer de voir autant que possible les choses du côté de la victoire, du côté des possibilités, plutôt que du côté des impossibilités. Demeurons sinon dans le drame du Vendredi Saint, finalement. Marie-Madeleine est dans le drame du Vendredi Saint, alors qu'on est le matin du dimanche. Elle est restée fixée sur le vendredi. Et Pierre, pareil, il est fixé sur son reniement. Et ce qui va être beau dans les épisodes de la résurrection, c'est de voir comment Jésus, un par un, va tous les récupérer. Il va tous les repêcher. Là, il repêche d'abord Jean. Ensuite, il va repêcher Marie-Madeleine. Ensuite, il va repêcher Pierre. À chaque fois, il va chercher quelqu'un dans sa forme de désespoir et il va le faire passer du désespoir à l'espérance. Donc c'est ça qui est très beau. Il va les faire passer du Vendredi Saint au dimanche, en fait. Pensez à tous les pèlerins d'Emmaüs aussi. On n'aura peut-être pas le temps de parler d'eux, mais... Et nous qui attendions, qui espérions qu'il allait chasser les Romains, etc. Et il est venu les rencontrer. Il est venu rencontrer chacun, et tous les épisodes de la résurrection, c'est pour ça. C'est pour aider les gens à passer du désespoir à l'espérance. Et on va alors, c'est ça la transformation, et ça change de direction. Et la direction de Marie-Madeleine, elle va de là où elle est, vers le tombeau. Et ensuite, elle va lui dire, va voir mes frères. Elle va aller du tombeau vers la Galilée. La Galilée, c'est le lieu où a lieu la transfiguration. C'est le lieu où le ciel et la terre se sont rencontrés. Et bien au fond, passer du désespoir à l'espérance, c'est ça. On ne va plus vers le tombeau. Ne cherchez pas le vivant parmi les morts, il est ressuscité. On va du tombeau vers le lieu de la Galilée, le lieu de la transfiguration. Voilà, je termine sur ça, parce que vous avez remarqué que ça, c'est l'évangile aussi qu'on prend pendant la vigile pascale. Les premiers Alléluia, Jésus n'est pas là encore. Les premiers Alléluia jaillissent d'un tombeau. Sauf que ce tombeau, il est vide. Normalement, le tombeau, c'est le symbole du désespoir, parce qu'il est habité par un cadavre. Alors que le tombeau vide, c'est le symbole de l'espoir, justement, parce qu'il n'y est plus là. Et s'il n'est plus là, c'est qu'il est ressuscité. Voilà, on regardera la prochaine fois cette pauvre Marie-Madeleine et comment Jésus est venu la tirer de sa tristesse pour la faire entrer dans la joie de l'espérance. Je termine juste avec cette exhortation du pape François. C'était une homélie de Pâques. « Ouvrons au Seigneur nos tombeaux scellés. » Pour que Jésus entre et donne vie, portons-lui les pierres des rancunes et les amas du passé, les lourds rochers des faiblesses et des chutes. Il souhaite venir et nous prendre par la main pour nous tirer de l'angoisse. Mais la première pierre à faire rouler au loin cette nuit, c'est le manque d'espérance qui nous enferme en nous-mêmes. Que le Seigneur nous libère de ce terrible piège d'être des chrétiens sans espérance, qui vivent comme si le Seigneur n'était pas ressuscité et comme si nos problèmes étaient le centre de la vie. Nous voyons et nous verrons continuellement des problèmes autour de nous et en nous, et il y en aura toujours. Mais cette nuit, il faut éclairer ces problèmes de la lumière du ressuscité. Les obscurités et les peurs ne doivent pas accrocher le regard de l'âme et prendre possession du cœur. Mais écoutons la parole de l'ange, le Seigneur n'est pas ici, il est ressuscité. Il est notre plus grande joie, il est toujours à nos côtés et nous ne décevra jamais. Voilà, et bien bon temps de réflexion ensemble, et puis à tout à l'heure.